Ce que vous dites surtout, c'est l'idée d'une utopie libérale. Quand on dit le mot utopie, même si c'est faux, on pense à des utopies socialistes, de gauche, marxistes, etc. Non, là, vous dites le libéralisme aussi est une utopie.
Absolument. C'est le retour en quelque sorte au 19e siècle. C'est le retour à la situation qui existait avant que l'État intervienne, impose l'impôt par exemple sur le revenu, l'impôt sur les grandes fortunes, les législations sociales. Et c'est cette idée que toutes ces réglementations qui ont été créées empêchent à l'heure actuelle le capitalisme de se développer. Et c'est une pensée qui est très très puissante dans l'esprit de gens comme Hayek, mais aussi dans l'esprit de gens comme Reagan, qui ont cette espèce de nostalgie de la frontière, de l'ère de la frontière, où l'entrepreneur faisait ce qu'il voulait, créait son entreprise très vite, n'avait pas à rendre compte à qui que ce soit de ce qu'il faisait. Et lorsque la crise économique intervient dans les sociétés occidentales, dans les années 70, vous avez beaucoup de gens comme Reagan, comme Thatcher, qui disent « c'est parce que l'État est trop intervenu ». C'est parce que l'État est trop intervenu que cette force considérable, à la fois créatrice et destructrice, que représente le capitalisme, est devenu tellement bridé qu'on arrive à une situation de paralysie. Donc il faut la libérer à nouveau. Et pour la libérer à nouveau, il faut remettre en cause tout ce qui a été le pacte social, les protections sociales et l'intervention de l'État.
Est-ce qu'il fallait cette crise pour que ça marche ?
Ah, il fallait cette crise pour que, en quelque sorte, il y ait une perception de la nécessité de faire autre chose. Lorsque nous sommes dans la période des 30 glorieuses, entre 45 et 75, grosso modo, et que Hayek s'agite, parce que Hayek, il est déjà là, Friedman, il est déjà là, ils se réunissent dès 1947, avec une série de gens qu'on ne connaît pas à l'époque, mais qui vont devenir prix Nobel à partir des années 80. Lorsqu'ils disent, il faut revenir à davantage de marché, il faut arrêter la réglementation de l'État, personne ne les écoute. Parce que la situation d'ensemble, la situation économique a l'air prospère, parce que les écarts de fortune semblent se réduire, parce qu'on est dans une situation qui est proche du plein emploi. Donc il n'y a aucune raison qu'on les écoute. Et puis quand la crise intervient, on est un peu comme dans la situation du spectateur dans un théâtre à qui on annonce un incendie et quelqu'un crie « c'est par ici la sortie ». Et ceux qui crient « c'est par ici la sortie » au moment où l'incendie entre guillemets survient, ce sont les néolibéraux. Alors vous allez là où il vous indique. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la sortie. Peut-être que vous allez périr en les suivant. Mais dans ce genre de situation de panique, dans ce genre de situation d'inquiétude, vous vous rendez vers la destination qu'on vous indique. Et cette destination, elle a été mûrement préparée par les libéraux à partir de la fin des années 40, des 47
la situation,
après.
La crise, non, la crise.
La réponse à la crise.
La réponse à la crise.
Les étapes qui vont permettre de passer d'une société réglementée, d'une économie mixte, à une société de marché. Tout ça, ça a été très, très mûrement pensé par les néolibéraux dès les années 40. Je cite, par exemple, dans le livre, des dispositions proposées par Hayek dès 1960, dans ce qu'il appelle la Constitution de la liberté. Et qu'est-ce qu'il demande ? En 1960, il dit, il faut déréglementer, privatiser, réduire et simplifier les programmes de sécurité sociale, diminuer la protection contre le chômage, supprimer les programmes de subvention au logement et le contrôle des loyers, abolir le contrôle des prix et de la production dans l'agriculture, réduire le pouvoir syndical.
C'est la feuille de route de Raffarin.
C'est la feuille de route de Raffarin et d'autres, et de Reagan et de Blair, etc. Mais dès les années 60, il est évident que quand il propose ce programme dans les années 60, il se condamne à ne pas être écouté. Les gens n'ont pas du tout envie de se lancer dans cette espèce de bond en avant ou en arrière selon la position qu'on occupe. Ils n'ont pas du tout envie de se lancer dans cette espèce de saut dans l'inconnu à partir du moment où leur situation semble s'améliorer, où ils connaissent une certaine prospérité. De 45 à 73, vous allez avoir une vague de prospérité sans précédent dans les pays occidentaux et relativement bien répartie, beaucoup mieux répartie que maintenant. À partir de 1973, aux États-Unis et pendant 25 ans, le revenu de la plupart des Américains stagne ou recule. Mmh. C'est à ce moment-là que vous êtes disposé à écouter ceux qui vous disent « voilà pourquoi ça va pas, voilà ce qu'il faudrait faire ».
Mais faire stagner les revenus, c'est intentionnel.
Non, je ne dirais pas que c'est intentionnel, mais la manière dont on répond à cette stagnation des revenus, elle est le produit d'une réflexion politique. Parce qu'encore une fois, une crise elle-même ne débouche jamais sur une solution donnée et une seule, ou pas forcément. Souvenons-nous de la crise des années 30. La crise des années 30, elle débouche en France sur le Front populaire, en Allemagne sur le fascisme, aux États-Unis sur le New Deal, et au Royaume-Uni, où la crise est au moins aussi importante au plan économique, il n'y a pas de grande transformation politique. Donc il n'y a aucun automatisme entre la crise économique et l'interprétation qu'on lui donnera. Il se trouve qu'à partir des années 70, des années 80, l'interprétation de chaque crise, ce sera « ça ne va pas parce qu'il n'y a pas assez de marché ». Et lors même où des crises surviendront parce qu'il y a trop de marché, ceux qui contrôlent les mécanismes d'interprétation, ceux qui contrôlent l'appareil d'État, diront non, c'est parce qu'on n'a pas été assez loin, c'est parce qu'on est uniquement au milieu du gué, il faut aller jusqu'au bout.